Alors, frères et sœurs, nous vivons des temps d'humiliation et je pense que nos frères au Guatemala, si j'ai bien compris les rapports, même ceux qui ont été rapatriés vers la capitale, ont subi beaucoup de moqueries. Nos pays sont dans la confusion, frères et sœurs. Des parents sont alarmés car ils sentent que leurs enfants sont exposés à des enseignements troublants qui sèment malaise et troubles émotionnels d'identité que la plupart d'entre eux n'avaient jamais connus. Les ouragans frappent, déversant des déluges d'eau. Le site au Mexique a été heureusement épargné. Il paraît qu'à la dernière minute, un ouragan s'est détourné. À certains autres endroits, par contre, vous le savez, ici, hein, dans la région de Narbonne, dans la région de Marseille, dans la région même de Bordeaux, il y a manqué de pluie. Et ça nous fait penser à un passage dans la prophétie de Amos. On va s'y reporter, si vous voulez. Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4. C'est un prophète qui, en fait, a été appelé alors qu'il était un agriculteur. Amos 4, verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Alors, Dieu ici est en train de dire aux gens, je suis en charge. Je suis en charge de la pluie. Je suis en charge des phénomènes naturels. Combien de citoyens de nos pays pensent à Dieu lorsqu'ils ont des ouragans, lorsqu'il y a des problèmes avec la pluie ou la sécheresse? Des feux ont ravagé des régions entières et ont créé des évacuations en masse, des pertes de vie, un air irrespirable, un épuisement des personnes et des ressources. Vous avez vécu ça déjà l'année passée, ici en France. Nous, c'est encore actif au Canada. Reportons-nous à un autre verset qui nous aide à comprendre que Dieu est souverain. Joël 1, c'est aussi dans les petits prophètes. En fait, il précède dans l'ordre que nous avons dans nos Bibles. Joël précède Amos et on s'y reporte au chapitre 1, verset 14. Et voyons que nous sommes un peu dans le contexte des fêtes de l'automne ici. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Je pense que ça nous fait penser aux expiations, où il y avait deux éléments, jeûne et aussi convocation solennelle, n'est-ce pas? Assemblez les vieillards, là c'est question de rassembler tout le monde, tous les habitants du pays, tous les habitants du pays d'Israël à l'époque, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et quoi? Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Verset 15. Joël 1. Verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Voyez-vous, le prophète, il dit, ces événements-là ne sont pas pour rien. C'est l'intervention de Dieu qui est annoncée. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Verset 17. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine. Et là, je ne sais pas les dernières nouvelles concernant nos frères au Guatemala, mais la dernière nouvelle, c'est que les vivres ne passaient plus. Mais enfin, espérons que nous savons que Dieu va trouver une porte. Les magasins sont en ruine car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés. Alors donc, même les animaux sont affectés. Et le fait de voir les animaux affectés, ça augmente dans un sens notre sensibilité à ce qui se passe. Et regardez le verset 19. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, parce que ces événements-là me rendent sensible à mon pays, me rendent sensible à mes concitoyens, me rendent sensible à tes promesses, me rendent sensible à nos péchés. Ça fait partie du rôle de l'enfant de Dieu de participer à cette douleur de l'enfantement, n'est-ce pas? Car le feu a dévoré les plaines du désert, la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Verset 20, les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Donc, nous voyons, ces temps d'humiliation avec un débalancement au niveau de la température, au niveau des phénomènes naturels. Et c'est toujours dans ce sens-là qu'on peut descendre jusqu'au verset 17. Toujours dans le contexte, un peu, on pourrait dire, d'un appel qu'on a entendu au jour des expiations. Oui, nous avons passé la fête des tabernacles. Oui, nous avons l'espoir du jugement du grand trône blanc, mais nous revenons, comme disait M. Bernal, nous revenons avec nos valises quand même. Et nous pouvons réouvrir nos valises et voir que nos soucis sont toujours là quand nous sommes revenus. Moi, par contre, j'ai un petit sursis, je l'ai négocié d'ailleurs avec M. Bernal. J'ai dit, moi, en ce qui me concerne, je n'ouvre pas mes valises avant d'être au Canada. Alors, donc, mes soucis, je ne les reprends pas. Alors, il a été d'accord, il a hésité un peu, avec un peu de jalousie, mais voilà que... Non, mais vous comprenez un peu le fait que nous sommes replongés assez rapidement dans la réalité présente, bien sûr, après avoir vu l'ultime réalité future. Alors, il dit au verset 17, « Qu'entre le portique et l'autel. » Donc, on se souvient que l'assemblée devait se retrouver autour du temple, dans le temple, en occasion de prière, d'invocation, mais aussi que pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire nous qui sommes appelés à être un peuple de sacrificateurs. Nous sommes sensibilisés à ce qui se passe. Ne livre pas, et qu'ils disent, et qu'est-ce que nous devons dire? Épargne ton peuple, Éternel, ne livre pas ton héritage à quoi? À l'opprobre, aux railleries, aux moqueries de ceux qui ne croient pas en Dieu, à l'humiliation. Alors, ne sommes-nous pas livrés aux mains des pécheurs par des lois malsaines? Contraire à la pensée même du Créateur concernant la sainteté du mariage, par exemple. Ne sommes-nous pas un objet de raillerie alors que la parole de Dieu est appelée au Canada littérature haineuse et que nos dirigeants prennent des décisions et font des déclarations attirant eux-mêmes des railleries de la part des autres nations? La question, fin du verset 17, « Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Alors que plusieurs, justement, voyageaient à des sites, autant en Israël qu'au Guatemala, des hostilités ont éclaté, n'est-ce pas, autour de nos frères et sœurs. Et ils ont subi, comme je l'ai dit tantôt, des moqueries et des railleries. Mais regardez le verset 18, toujours dans Joël, 2 cette fois, toujours en fait, Joël 2, 18. Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie. Et jalousie et zèle en hébreu, c'est le même mot. La jalousie de Dieu est toujours parfaite. Le zèle de Dieu est toujours parfait pour son pays. Et il épargne son peuple. Il épargne son peuple. Et sur une base individuelle, attirons-nous le zèle de l'Éternel en notre faveur? Pouvons-nous toucher le cœur de Dieu pour qu'il se lève en notre faveur et qu'il nous épargne de l'humiliation, de la raillerie de ceux qui nous entourent? Chacun individuellement, certains d'entre nous, nous vivons des moments difficiles. Certains retournent à leur foyer, mais pour trouver un conjoint hostile. qui se lèvent contre l'Église, qui se lèvent contre les valeurs, qui se lèvent contre l'éducation saine des enfants. D'autres tournent à des emplois où les gens vont montrer qu'ils sont jaloux, mais d'une mauvaise jalousie, du fait qu'ils ont pris congé. Mes frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Nous avons toute l'attention de notre Père aimant. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, vraiment, que notre Père aimant porte un regard particulier sur ses enfants, surtout ceux qui vivent l'humiliation. Regardons Ésaïe maintenant 57. Nous sommes dans les prophètes, il semble. Hein? Ésaïe 57. Ésaïe 57. Nous allons voir plusieurs versets qui confirment que nous attirons l'attention de Dieu alors que nous vivons des difficultés. Et pourtant, ce n'est pas toujours agréable d'attirer l'attention, n'est-ce pas? Si nous devons en payer le prix. On a eu un petit exemple tantôt dans la salle. Est-ce que c'était agréable pour Max, n'est-ce pas, d'attirer l'attention sur le fait qu'il est tombé, il s'est blessé, il s'est fait mal, c'était souffrant, douloureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hop, deux, trois, quatre personnes ont convenu d'aider à soulager la souffrance, n'est-ce pas? C'est comme ça notre réaction. Imaginez Dieu quand il nous voit dans la souffrance, quand il nous voit tomber, quand il nous voit être raillé, quand il nous voit humilié. Eh bien, regardons ensemble Ésaïe 57, verset 14. Ah, je pense que... Ah oui, en fait, c'est... Je pense que ce n'est pas le bon verset. Laissez-moi voir. Ah oui, c'est verset 15. C'est un de plus. Un de plus. Verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, Ésaïe 57, verset 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Alors, ça, c'est notre Dieu. Hein? « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » C'est tellement vrai qu'on a de la difficulté à se sentir capable d'atteindre son cœur, son esprit, sa sainteté. Mais regardez la consolation. « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié dans toute ma sainteté, dans toute ma hauteur. Voici avec qui je suis. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Alors, c'est merveilleux. Regardez maintenant le verset 18. Verset 18. « J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » N'est-ce pas une directive de Paul de pleurer avec ceux qui pleurent? Et quand vient la réjouissance, là, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est ce que nous faisons constamment, n'est-ce pas? Et parfois, ça nous épuise. Surtout de pleurer avec ceux qui pleurent, parce que se réjouir, on dirait que c'est un petit peu moins difficile, un peu moins souffrant. Hein? Mais Dieu dit, « Je serai avec lui, je le guérirai. » Un peu plus loin, Ésaïe 66, verset que vous allez reconnaître, mais j'espère que vous allez vous reconnaître, que nous allons nous reconnaître dans ce verset. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas que pour les autres. La parole de Dieu est aussi pour nous. Mais elle est pour nous aussi, même quand on pense que nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elle nous propose, de ce qu'elle nous enjoint de faire. Regardez quand même au verset 2 d'abord. Verset 2, toutes ces choses, en parlant de la création, Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons reçu l'existence. Encore une fois, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui réussit bien dans la vie. Sur celui qui fait beaucoup d'argent. Sur celui qui est prospère. Excusez, j'ai mal lu. Pas tout à fait. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, comme nous l'avons vu dans la sermonnette. C'était aussi l'enseignement d'une bonne et saine humilité. Alors, nous allons voir maintenant comment Dieu porte ses regards sur ceux qui vivent des humiliations en nous reportant. On va étudier un peu le psaume 34-19. C'est-à-dire psaume 34, on va aller chercher le cœur du psaume, qui est le verset 19 en français, verset 18 en anglais. Il y a souvent des différences de un ou deux versets dans les psaumes entre le français et l'anglais. Là, une des raisons, c'est que le français calcule que le titre du psaume équivaut à un verset. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce décalage-là la plupart du temps. Psaume 34-19. Psaume 34-19. Et c'est intéressant parce qu'on va voir qui parle et surtout dans quelle situation il parle. Psaume 34, verset 19. Quand les justes crient, Dieu entend, il les délivre de toute leur détresse. Et remarquez à qui il équivaut, à qui il fait équivaloir les justes. Il va les expliquer, il va l'expliquer au verset 19, qui sont les justes. Vous allez être étonné. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors les justes, ce sont ceux qui ont le cœur brisé, et ceux qui ont le cœur brisé, ce sont les justes. Brisé de voir toutes les abominations qui se produisent autour d'eux. Brisé de voir les gens souffrir inutilement. Brisé de voir les gens de leur famille se disputer. Tellement de choses. Et il sauve, verset 19 au milieu, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et regardez l'énoncé que nous chantons. Le malheur atteint souvent le juste. Et ça, je pense que plus on vieillit, plus on se rend compte que c'est vrai. Mais on dirait que notre résistance morale nous dit à un moment donné, « Ouais, mais jusque 5 ans! » Et pourtant, on est plus fort qu'on le pense. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Éventuellement, bien sûr. Alors, en regardant l'hébreu dans l'original, le mot pour « près de » est « karob », ce qui signifie « à proximité », « juste à côté ». Le mot, par contre, pour « cœur brisé », qui est l'hébreu « sabar », signifie « désolé, en deuil, brisé et même éclaté en morceaux ». Et le mot pour « abattu » ou « abattement » est « daka », qui signifie aussi « contrit » comme quelqu'un qui se présente devant Dieu et se sent inférieur, se sent brisé, se sent repentant. Donc, en substance, le verset signifie que Dieu, qui est le Seigneur par-dessus tout, est pleinement avec ceux qui sont désemparés, qui sauvent ceux qui le craignent, et qui se repentent de leur mode de vie, de leur tort. Il est avec ceux qui lui appartiennent parce qu'ils éprouvent des difficultés de la souffrance et dont le cœur est écrasé par les tragédies et les discordes de la vie. Dieu voit, Dieu se soucie, Dieu supplée aux besoins. Alors, qui a donné ce psaume-là? Qui, dans un sens, est le principal objet ou même sujet de ce psaume? Eh bien, remontons au premier verset. Psaume de David. psaume de David. Donc, ce psaume 34 est décrit au début comme étant de David, ce qui signifie soit qu'il a écrit lui-même le psaume, il faut bien comprendre l'hébreu ici, ou soit qu'il établit que le psaume est pour lui. Bien sûr, il a participé à sa composition, mais c'est surtout aussi pour David. C'est-à-dire, moi, j'en ai besoin, dit David. Dieu m'a inspiré ça, mais j'en avais besoin. Vous allez voir que c'est vraiment David qui parle. Et c'est David qui en bénéficie. Pourquoi? Parce que les circonstances nous montrent qu'il était dans une situation peu enviable. Et il s'est tout de suite expliqué. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qui s'en alla chassé par lui. Ce psaume-là a été composé dans un temps d'humiliation. David est obligé de, permettez l'expression, du moins au Québec on dit, de jouer le fou, de faire le fou devant une autorité étrangère parce qu'il en avait peur, il était isolé, il était en danger, et pour que, dans un sens, on ne le tue pas, alors que l'autre autorité étrangère savait qu'il était le roi David, ben, il a joué qu'il était maintenant un roi insensé. Et pour faire le fou, en passant, pour être appliqué comme fou à l'époque, ça voulait dire vraiment montrer qu'on bavait, qu'on était perdu, qu'on parlait de façon stupide. Et c'est ça qui a permis de sauver sa vie. Pas très enviable, n'est-ce pas? Mais c'est le point de départ de ce psaume. David dit, j'ai vécu quelque chose, je ne suis pas très fier, je ne sais même pas si j'ai honoré mon Dieu à ce moment-ci, mais une chose certaine, j'étais malheureux. J'étais malheureux. Et bien sûr, il réfléchit après avoir vécu cela après avoir reçu de l'encouragement de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, il s'en est sorti. Mais il va alors enseigner quelques leçons. « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Et pourquoi? Ou qu'ajoute-t-il? « Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Autrement dit, ce message-là est destiné à ceux qui sont malheureux, pour qu'ils se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré, quoi, de toutes mes frayeurs. J'avais vraiment eu la frousse. J'ai fait cette stratégie-là, j'ai joué l'insensé. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose à faire, mais heureusement que, dans un sens, je m'en suis sorti. Quand on tourne, verset 8, vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, mais une fois sorti du problème, bien sûr. Et le visage ne se couvre pas de honte. Remarquez encore le verset 7, « Quand un malheureux crie, j'étais malheureux, j'ai crié, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. » Il ajoute que de bien se souvenir qu'on n'est jamais seul dans l'épreuve. Oui, nous avons l'Esprit Saint, mais en plus de l'Esprit Saint, regardez le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Christ a certifié qu'il y a un ange qui veille sur nous personnellement, individuellement. Imaginez, je pense que tous les anges veillent en général sur la race humaine. Parce que les anges bons veulent quand même que la race humaine survive jusqu'à un certain point. Mais qu'en est-il, imaginez, de l'ange qui a été attribué aux enfants de Dieu? Pensez-y. Il campe. Il est là. Il veille. Alors, c'est quand même rassurant. Il les arrache au danger. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Alors, c'est dans un contexte quand même peu agréable que David a écrit ce psaume. Il parle de gens qui sont malheureux. Il parle donc de ceux qui ne doivent pas avoir de la honte. Et il ajoute au verset 9, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et finalement, au verset 15, il répète, n'est-ce pas ce que j'ai dit tantôt, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri. » Bien sûr, les justes, ce sont ceux qui se réfugient, d'abord sous le sang de Jésus-Christ, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin du pardon de Dieu, et qui aussi s'appliquent, n'est-ce pas, à honorer celui qui a donné sa vie pour eux, leur sauveur, Jésus-Christ, et honorer son Père, qui l'a envoyé, comme vous le savez, pour nous. Vous savez, il y a un passage qui est vraiment là dans les Écritures qui est étonnant, et c'est, je dirais, les vétérans dans l'Église, vous le comprenez plus que beaucoup de jeunes dans l'Église. Regardez la première lettre de Pierre, chapitre 2. Et pourquoi vous le comprenez? Parce que vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu en persévérant, en passant à travers certaines épreuves, en ne lâchant pas le morceau, comme on dit, la première lettre de Pierre, chapitre 2. Verset 19. Vous savez, mettez-vous à la place d'un jeune chrétien là, qui comprend, oui, que oui, il a péché, oui, il a besoin du plan de Dieu, mais qui, n'est-ce pas, la vie est belle devant lui. Là, tout l'attend, peut-être qu'il va se marier bientôt, peut-être qu'il a un nouvel emploi, tout va bien. Et tout d'un coup, Pierre leur dit ceci, et il nous dit ceci, verset 19, première lettre de Pierre. Chapitre 2, verset 19. « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions. » C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un moment favorable, c'est quelque chose qui travaille en notre faveur, de supporter des afflictions, mais par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Si je raccourcis la phrase, quand on souffre injustement, c'est une grâce quand on souffre injustement. Vous allez dire, mais moi, je n'aime pas ça. Je suis d'accord avec vous, je n'aime pas ça non plus. Mais c'est un moment qui attire le regard de Dieu. C'est un moment où Dieu, c'est comme dans toute son occupation, on pourrait dire, éternelle. Oh, il regarde et dit, oh, mon fils, ma fille, elle vit quelque chose d'injuste. Et ça, c'est précieux pour moi, parce que maintenant, elle est en train, ou il est en train, non seulement d'attirer mes regards, mais que moi, je vais participer à l'issue de ces choses. Je vais l'accompagner beaucoup plus étroitement que quand tout va très bien. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Alors, c'est sûr que c'est, si on mérite le problème, mais là, c'est autre chose. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, il reprend l'expression, c'est une grâce devant Dieu. C'est une occasion tout à fait spéciale dans votre histoire, dans mon histoire, que Dieu porte les regards avec beaucoup d'attention. Continuons à établir un parallèle avec David. Comment Dieu était-il proche de David quand il a eu le cœur brisé? Ben, il suffit de voir un petit peu dans sa vie certaines époques difficiles. À l'époque, qui semblait d'abord avoir eu un heureux commencement, n'est-ce pas, où il était dans la faveur du roi d'Israël qui était Saül. Il était tellement dans la faveur qu'il a eu même droit à marier sa fille. Alors, ça allait bien, surtout après avoir tué Goliath. Et, ça va, il était quand même un sauveur dans un sens. Il a été le déclencheur du courage dans le peuple d'Israël pour vaincre les Philistins. Donc, et Saül, dans un sens, il l'admirait parce que il était un bon guerrier, il était un bon musicien en plus. Mais on sait que ça s'est détérioré. Hein. On sait que ça s'est détérioré. Finalement, il y a eu un petit énoncé qui n'a pas plu à Saül, et la jalousie, l'envie, la paranoïa, tranquillement, s'est développée dans le cœur de Saül, qui a commencé à avoir peur de David et à le détester, à vouloir le tuer. Alors, c'est dans de telles circonstances-là que David a, comme on le sait, a été béni de Dieu. Il a fui devant Saül, mais on le voit que c'est dans ses psaumes, il parle qu'il a découvert ou développé une plus grande intimité avec son Dieu. Par exemple, nous savons que le roi Saül a essayé 3 fois de s'emparer de lui et de le tuer. Dieu l'a vraiment protégé, il fallait que Dieu le protège, montrant donc sa proximité avec David. Vous savez, quand on regarde, certaines personnes nous disent, combien de temps avez-vous été dans l'Église? Ah, ben moi, ça fait tant d'années. Et quelle est souvent la remarque? Mais on en a traversé des choses. Mais oui, vous êtes encore vivant. Je suis encore vivant. Ça montre quoi? Ça montre que Dieu est avec nous. Il y a eu même des épisodes très noirs chez David. Qui, nous, probablement, on l'aurait rejeté complètement, hein, ce David-là. Mais regardez dans le psaume 51, que nous connaissons très bien, comment David a découvert davantage qu'il avait besoin de l'aide de Dieu, et c'est après avoir commis une des choses les plus abominables de sa vie. Abominable aux yeux de Dieu. Abominable aux yeux du peuple, abominable aux yeux de sa famille. D'ailleurs, ça n'a jamais été pareil avec certains membres de sa famille qui l'ont comme humilié ou abaissé ou regardé d'une façon croche après. Abominable à ses propres yeux. Hein, on connaît l'histoire. Ce moment où il a volé, dans un sens, la femme d'un autre, et il a tué un de ses meilleurs soldats. Imaginez, en tout cas, moi, je ne veux pas être à la place de David. Oh, peut-être à la fin, mais jamais. Pendant toute cette histoire-là, moi, je serais complètement tué. Moi, je me sentirais complètement en dehors du portrait, comme on dit. Mais regardez ce qu'il dit au psaume 51. Psaume 51, verset 12. David s'est rendu compte que sans l'aide de Dieu, il n'arriverait pas à plaire à Dieu, il n'arriverait pas à aimer Dieu comme Dieu demande qu'il aime, il n'arriverait pas à être un bon roi, il n'arriverait pas à être un bon père de famille, il n'arriverait pas à rien de bon sans son aide. Même s'il avait fait beaucoup de bonnes choses avant, même s'il avait fait des exploits avec Dieu, il y a eu ce moment difficile, mais il a compris une chose et il va la verbaliser comme une demande. Et regardez donc psaume 51. D'abord, allons au verset, je vais descendre un peu parce que vous allez voir qu'il a été brisé par cette expérience-là, verset 19. « Les sacrifices, dit-il, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Alors, il a quand même compris qu'en étant brisé, Dieu allait porter le regard sur lui. Et il dit, au fond, Dieu recherche ces hommes brisés, ces femmes qui ont un esprit brisé. « Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et remontons maintenant à ce qu'il a trouvé. La solution qu'il a trouvée quand on est dévasté, soit par notre faute ou soit par une situation injuste, l'un et l'autre peut nous dévaster de toute façon, parce qu'on est humain. C'est le verset 12. Ô Dieu, étant donné que j'ai le cœur brisé, étant donné que je suis complètement démoli par mon propre comportement ici dans la situation, ou par l'oppression, ou par des injustices, ce qui est quand même un peu plus honorable, il faut le dire. Mais de toute façon, ô Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur. Fais cet acte de création. Moi, je ne peux pas me créer moi-même. Je ne peux pas avoir ce cœur que tu me demandes. Tu me demandes de m'aimer de tout mon cœur. J'en ai plus de cœur. Je suis un sans-cœur. Soit parce que je suis brisé à cause des fautes des autres, soit que je suis brisé à cause de mes propres fautes, ou un peu un mélange des deux. Mais Dieu, tu as une capacité de créer en moi ce cœur pur, ce cœur parfait. Incroyable. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce qu'un esprit brisé n'a plus aucune disposition. Il est juste disposé à s'abandonner et à dire, moi, j'ai fini, je suis tanné. En québécois, ça, je suis tanné. Je suis épuisé de mon combat. Alors, frères et sœurs, beaucoup d'autres fois, tout au long de sa vie, nous voyons David apprendre de profondes leçons. Comme lorsque le fils de David, Absalom, n'est-ce pas, s'est révolté contre lui, lui a fait la guerre et a été tué par son oncle. C'était difficile, c'était humiliant, c'était désespérant. En protégeant David, en pardonnant David, nous voyons l'amour de Dieu pour lui. Dieu est toujours là à regarder, à aider, à sauver. Et il a composé, comme vous savez, bien d'autres psaumes pour nous aider. Comment Dieu est-il proche de nous maintenant? Nous savons, oui, mais moi, je ne suis pas un David. Moi, je ne suis pas comme David. David avait des grandes capacités. Oui, il a fait des erreurs, moi j'en ai fait aussi, mais lui avait plus de foi que moi. Lui, il savait retomber sur ses pieds. Moi, j'ai plus le goût de tomber sur mes pieds. J'ai plus de pieds. Comment Dieu est-il proche de nous quand nous avons le cœur brisé? Parce qu'on est fait à son image. Regardez votre enfant. Regardez peut-être l'enfant, un neveu, une nièce qui vous ressemble un peu. Et qu'est-ce que ça fait quand vous les voyez tout petits, vulnérables? Ben, ça vous fait comme porter le regard, exactement comme Dieu porte les regards sur nous. Ça attire les regards. Or, Dieu nous dit, nous sommes enfants de Dieu. Il dit parfois même, vous êtes comme des bébés. Il dit, des fois, vous devriez peut-être être un petit peu plus mûr, mais écoutez, c'est correct. Vous avez besoin de lait, on va vous en donner, en espérant qu'un jour, vous allez mûrir un peu. Mais le regard de Dieu est toujours attendri à ce moment-là. Voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne prend pas de pause. L'objectif de Dieu, c'est de nous accompagner jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de Christ. Même si parfois nous sommes appelés à mourir avant le retour du Christ, c'est possible. Il faut l'envisager. Il va être avec nous jusqu'à notre fin, temporaire. Et Jésus va faire écho à ce principe de présence continuelle selon Matthieu. Voici les paroles selon Matthieu 11. Un verset aussi qui vous est très familier, mais qui, j'espère, nous parle. Matthieu 11. Quand on se sent comme plus trop à la hauteur, quand on se sent qu'on s'est plaint assez à Dieu, qu'on n'a même plus le goût de se plaindre, dans le sens de toute façon, je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir m'améliorer. Je ne suis même pas sûr que je vais m'en sortir. Je ne suis même pas sûr que je vais avoir le courage de plaire à Dieu. Ah oui, mais c'est à ce moment-là qu'il faut venir à lui. Et comment venir à lui? Alors, c'est dans Matthieu 11. Matthieu 11, on ne vient pas avec des trompettes. On ne vient pas avec des formules toutes faites. On vient juste s'écrouler devant lui. On vient juste dire, je suis épuisé. Venez à moi, vous tous qui êtes en forme et qui dansez. Ah non, ailleurs, il est bon d'être en forme. Non, il dit, vous qui êtes fatigués. Fatigués. Des fois, quand en québécois, on dit fatigué. On dit que fatigué, c'est plus fatiguant. Et c'est presque épuisé. Vous êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous avons un peu de repos. C'est le repos du sabbat. C'est bien. On se fait ressourcer. Dieu a envoyé sa parole. Nous avons entendu des chants. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit fait son œuvre. Et il va, étonnamment, il va nous faire confiance. Il va dire, prenez mon joug. Vous allez dire, mais oui, mais je suis déjà fatigué. Prenez mon joug. On va faire un échange ici. Donne-moi ton joug. Donne-moi ce que tu as dans ta valise. Donne-moi ta valise. Tiens. Alors là, on peut prendre la valise avec tous les soucis, puis là, on la transfère à Jésus-Christ. Il va être le porte-valise. Ça veut dire, il en fera ce qu'il voudra avec notre valise. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux. C'est ma nature, je suis doux et humble de cœur, et promesse, vous trouverez du repos pour vos âmes, pour vos êtres, car mon joug, parce qu'on fait un échange, là. Vous me donnez votre joug, prenez mon joug, et contrairement à ce que les gens, des fois, les enfants de Dieu croient, le joug de Christ est doux. Et mon fardeau léger. Alors, si notre fardeau est pesant, c'est parce qu'on porte notre fardeau et non pas celui de Jésus-Christ. Aïe, aïe! On est en train de porter le nôtre au lieu de celui de Jésus-Christ. Vous allez dire, ouais, mais moi, je porte le mien plus celui de Jésus-Christ. Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'un ou l'autre. Lequel vous voulez? Lequel je veux? La réponse, celui de Jésus-Christ, il est plus léger. Réponse, soyez sage, c'est le bon choix. Alors, à chaque fois que quelque chose est trop pesant, vous ne l'acceptez pas comme étant votre joug. Vous l'avez remis à Jésus-Christ, celui-là. Si ce fardeau que vous avez reçu vous stimule, vous donne le goût de faire plus, vous encourage à aider quelqu'un présent, là, vous avez le joug de Christ. Alors, c'est avec le temps qu'on fait cet échange-là. Même lorsque les disciples ont eu le cœur brisé à la perspective de la mort de Jésus, Dieu a fourni, une fois de plus, un moyen de s'approcher, et cette fois, en ajoutant une aide additionnelle que nous avons aujourd'hui. Et quelle est cette aide? Il s'appelle l'avocat. Il s'appelle le paraclet en grec. Il s'appelle l'Esprit-Saint. C'est la présence de Dieu intimement liée à notre esprit, soudée en fait à notre esprit, qui fait que Dieu est tellement proche de nous qu'il vit tout ce que nous vivons. Ouais, n'oubliez pas l'autre côté. Et qui fait que nous pouvons vivre tout ce que Dieu vit. Ah ça, il pense jamais, hein? Dieu vit tout ce que nous vivons. L'Esprit-Saint nous aide à vivre ce que Dieu vit. Alors, le regard de Dieu sur nos épreuves devient différent si nous l'adoptons. Nous ne voyons plus nos épreuves de la même façon. Et nous ne voyons pas le monde de la même façon. Les souffrances du monde nous touchent parce qu'elles touchent Dieu. Et nous avons la force de Dieu pour le porter. Le joug léger. Alors aujourd'hui, nous avons cet avocat en nous, l'Esprit Saint. L'Esprit vit dans nos cœurs, nous oriente et nous guide, nous apportant la paix même face au désespoir. Il faut le vivre pour le comprendre. Et nous entendons des témoignages de gens qui sont dans un deuil, qui ont perdu un être cher. Et il dit, j'étais désespéré, mais j'ai senti que Dieu est avec moi. j'ai senti que Dieu m'a consolé. Ça change tout. Ça change tout. Prenons Romains 8 comme avant-dernier verset. Romains 8. Il se passe un phénomène, et c'est avec le temps qu'on le réalise, c'est par la foi que nous l'acceptons, que nous l'accueillons. Nous souvenons le jour de notre baptême, le jour où on nous a dit que l'Esprit Saint sera donné par l'imposition des mains, on se souvient de ça. Et on a toujours la difficulté à comprendre, oui, mais comment, qu'est-ce qui se passe exactement? Avec le temps, on se rend compte qu'on ne pense pas les mêmes pensées qu'avant, qu'on ne ressent pas tout à fait les mêmes choses qu'avant, qu'on ressent les choses d'une façon beaucoup plus élevée, pourrais-je dire. Une vision beaucoup plus large, c'est celle de Dieu en nous. Et regardez que cet Esprit Saint travaille dans les deux sens. De même aussi, verset 26, l'Esprit qui est en nous nous aide dans notre faiblesse. Bon, alors c'est d'abord le premier rôle de l'Esprit, c'est de nous aider dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Après un certain temps, on a prié, hein, puis ça n'a pas marché, il ne s'est rien passé. Ça veut dire quoi? Bon, on ne sait pas demander ce qui nous convient parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui ça nous convient. On aimerait que ça nous convienne. Mais Dieu dit, non, vous ne savez pas ce qu'il vous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même, heureusement, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit en dans nous, c'est la pensée de Dieu en nous, et Dieu qui est au-dessus de nous, il fait le contact. Là. Tu sais? C'est, le GPS est exactement axé à bonne place. Là. On est à bonne place, on est arrivé là. On a tant de minutes, tant de secondes, hein, on est localisé par Dieu. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Nous savons, à ce moment-là, du reste, verset 28, Romains 8, 28, que toutes choses, à cause de ça, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein. Dieu est toujours là, encore une fois, prend soin de nous, nous aime, et par l'intermédiaire de son Fils, il marche avec nous, hein, par l'Esprit qu'il nous a donné. On peut faire une prière lorsque notre cœur se brise. Elle pourrait se faire un peu en ces termes-là. Et nous allons conclure. Alors, si nous sentons le cœur brisé, on peut facilement faire une prière de demande à Dieu. Ça peut être aussi simple que celle-ci. « Cher Père Céleste, toi seul connais les profondeurs de ma douleur et la source de mon angoisse. Toi seul peux me donner la paix et la protection dont j'ai besoin. Sois avec moi, prends soin de moi. Console mon cœur, prends-moi dans tes bras. Fais-moi découvrir que tu es à côté de moi à chaque instant. Par les souffrances et la victoire du Christ, tout est possible, Père. Amen. » Alors Dieu, en conclusion, est avec ceux qui ont le cœur contrit brisé. Gardons courage, quelle que soit la douleur que nous traversons. Un jour, nous nous reposerons en sécurité dans ses bras. Nos années d'errance auront un terme. Nos années de désespoir auront un terme. Reposons-nous déjà dans cette perspective de sécurité dans ses bras. Parce que nous savons que non seulement nous, mais tous ceux qui auront le cœur contrit, brisé, auront accès à Dieu. Et nous savons très bien que cet accès-là sera rendu possible au retour de Jésus-Christ. Nous avons observé la fête des expiations. Nous avons observé aussi la fête des tabernacles. Nous avons eu cet espoir qu'amène le dernier grand jour. Gardons présent à l'esprit, frères et sœurs, que Dieu est toujours présent, mais qu'il a un regard particulier sur ceux qui ont le cœur contrit et brisé.